au fin fond de la montagne, à des kilomètres et des kilomètres de la ville, vit un jeune garçon, seul, isolé, avec la nature pour seule compagne.
Et c'est là, le 2 mars 1988, que ma vie a véritablement commencé. Première diffusion en français du premier épisode de Dragon Ball qui était né 4 ans plus tôt au Japon, sous la plume d'Akira Toriyama. Bonjour Mathieu Pinon.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Je suis très heureux de recevoir l'un des plus grands connaisseurs de Dragon Ball après moi. Vous avez un métier que tout petit garçon des années 80-90 aurait rêvé d'exercer, mais qui n'existait pas à l'époque, en tout cas chez nous. Vous êtes journaliste spécialisé en manga et pop culture japonaise, rédacteur en chef du magazine Otaku Manga. Alors déjà Mathieu, expliquez-nous un truc sur Dragon Ball. Comment un animé qu'on regardait en 84 chez nous, en 88, peut-il toujours plaire à nos enfants aujourd'hui? Moi, mon fils, il a 12 ans et il est fan de Dragon Ball.
Alors, tout simplement parce que Dragon Ball, c'est la synthèse du magazine dans lequel il a été publié auparavant, qui s'appelle le Shonen Jump. Et ce magazine a une ligne éditoriale qui réside en trois termes qui sont forts dans le cœur des petits-enfants qui passent à l'adolescence, à savoir courage, amitié, victoire. Et on va retrouver ces trois valeurs qui vont être présentes dans Dragon Ball tout au long de l'aventure. Mmh. Et par conséquent, les enfants ont particulièrement apprécié. Mais on va retrouver ces mêmes valeurs dans des titres comme Olive et Tom, comme Les Chevaliers du Zodiac. Mmh. Autant de titres qui sont issus du même magazine que Dragon Ball.
Oh là là, du miel pour mes oreilles. Tous ces noms
oui,
qui me ramènent en enfance.
Oui.
Comment un petit garçon pas plus grand que Quentin et plus porté sur la bouffe que Cyril Lacarrière a-t-il pu devenir le plus grand guerrier de tous les temps? Et surtout, comment Dragon Ball a permis aux mangas, à tous les mangas, d'entrer dans notre culture. J'enfourche mon nuage magique. Cyril repense au petit shorty de Bulma. Cyril, notre rédacteur en chef, ayant été lui-même inspiré du personnage de Tortue Géniale. Et Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Back. Chaque vendredi, vous le savez, on regarde dans le rétro, on rembobine direction une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, on va se replonger en 1984. Le futur hymne de la Marianoche retentissait pour la première fois sur la bande FM. Jimmy Cliff chantait... Tube sur lequel se trémoussait déjà Ghislain Fontana, notre réalisateur éco-responsable et biosourcé, qui ne fait pas ses 60 ans, comme quoi les pierres d'énergie et le tantrisme, ça conserve. Moi, qui ne consommais pas de cannabis, j'étais plutôt... Quant à Quentin, il n'était soi-disant pas né, mais tout le monde sait qu'il l'était et que très probablement c'est lui qui a écrit...
Je fais une très belle reprise guitare-voix, ça.
C'est vrai, c'est vous qui l'avez écrit pour Gilbert, ouais, ça, c'est pas possible, ça vous ressemble tellement. Mais 1984, c'est aussi la naissance au Japon de ce héros qui allait faire entrer le manga dans une autre dimension. Dragon Ball, fabuleux en VO, mais peut-être encore plus savoureux en VF grâce à cette idée géniale qu'avait eu TF1 de confier les doublages à des pervers.
Tu devrais avoir sous les yeux une espèce de trou.
Ah oui?
Tu vas prendre ton bâton magique et le mettre à l'intérieur.
Comme ça?
Oui.
Quentin, si vous demandez si c'est ma mère qu'on entend, vous êtes viré.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Je suis choquée.
Ah, mais ça faisait plaisir à l'époque, hein, les doubleurs. Mathieu Pinon, vous allez nous raconter comment est née la saga Dragon Ball. Juste le temps de vous présenter mes Super Saiyan à moi, dont j'attends toujours qu'ils se transforment. Manon Mariani, chaque vendredi, vous nous racontez une première fois.
Et en 1984, c'est une première fois historique pour l'équipe de France de foot. Elle gagne l'Euro, soit son premier titre international. Je vais vous raconter cette soirée. Vous allez voir que les joueurs de l'époque avaient la victoire plus sobre que les nouvelles générations.
Ils n'étaient pas habitués, surtout.
Clairement.
Quentin, vous, le vendredi, c'est votre jour off aux archives de l'INA.
Oui, entre guillemets, c'est mon jour off de presse régionale. Alors, je mets mon nez dans les archives. Le petit Grégory, Coluche au César et Fignon en jaune pour le Tour de France. Retour en 1984.
1984, entre deux Kamehameha, on allait au cinéma, comme nous le rappellera ce bon vieux Thomas Croisière. En fin d'émission, Charles Nouveau nous rejoindra et on verra que lui aussi a été très marqué par Dragon Ball, notamment la relation ambiguë entre Bulma et Son Goku dans les premiers épisodes. Mais d'abord, l'œil de l'expert. Mathieu Pinon est avec nous. Mathieu, vous êtes rédacteur en chef de Otaku manga. Vous aviez 7 ans, si j'ai bien calculé, quand Dragon Ball a fait son apparition au Japon. Vous, vous l'avez découvert à quel moment ?
Ah, comme la majorité des petits Français en 88, quand il est arrivé au Club Dorothée. C'est-à-dire que j'ai fait le chemin à rebours en découvrant le dessin animé avant de connaître le manga, donc la bande dessinée d'origine.
Il faut dire aux jeunes qui nous écoutent, il y en a certains, que c'était quand même beaucoup plus difficile à notre époque de se procurer les mangas, etc.
Ah, c'était
un parcours du combattant.
C'était vraiment, il fallait en vouloir. Je pourrais vous raconter d'ailleurs une anecdote par rapport à ceux qui voulaient absolument acheter leur manga Dragon Ball quand on arrivait vers la fin de la série, qui est très coquignolesque.
Bah, racontez-nous tout de suite.
Ah, alors, à l'époque, Tonkam, librairie dans la rue Keller à Paris, était la première librairie à s'être intéressée au manga. Et avait compris qu'il y avait vraiment un phénomène Dragon Ball et faisait importer des nouveaux tomes, mais par palette. Hein. Parfois, ils avaient 10 000 exemplaires. Il y avait des gens qui faisaient la queue le samedi. On pouvait passer des heures à attendre. Donc, c'était très amusant parce que des amitiés se sont créées dans ces files d'attente. Et un jour, il y a un jeune homme qui arrive et sur la boutique, il y a marqué Dragon Ball rupture totale. Il rentre dans la boutique, il dit bonjour, je voudrais Dragon Ball rupture totale, s'il vous plaît. Et la vendeuse de lui dire, mais est-ce que vous avez conscience de ce qu'a voulu dire Dragon Ball rupture totale? Et lui dire, non, je m'en fous, c'est du Dragon Ball. Donc, c'est vous dire à quel point Dragon Ball avait une
c'était vous.
C'était vous.
Ah, je suis grillé.
Et alors, pourquoi Dragon Ball, c'est le manga par excellence? C'est une vue de l'esprit de gens comme moi, parce que c'est le premier dessin animé marquant de notre enfance, ou c'est quand même un manga historique absolument important dans l'histoire du manga?
Alors, il y a les deux facteurs. Si on prend le facteur japonais, c'est vraiment un manga qui a marqué les esprits. Mais si on prend le facteur français, depuis notre point de vue à nous, il y a eu deux jalons auparavant. Il y a eu Goldorak en 78, qui a été le premier choc où on a découvert Goldorak. Et ensuite, il y a eu les Chevaliers du Zodiac qui sont arrivés avec le Club Dorothée en 87, un an avant Dragon Ball. Et le point commun entre Goldorak et Chevaliers du Zodiac, c'est que c'est super sérieux. On n'est pas là pour déconner, on est là pour sauver le monde. Vraiment, on prend tout très premier degré. Alors que Dragon Ball est arrivé avec une énorme dose d'humour, tout du moins dans la première partie. Dans Dragon Ball Z, on est un peu plus...
guerrier,
un peu plus, oui, un peu plus rugueux. Et il y avait ce côté toujours de l'action, il y avait de l'aventure, et il y avait un gros côté d'humour et de déconne.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, de quoi ça parle, Dragon Ball ?
Dragon Ball... ça commence avec une jeune femme qui s'appelle Bulma. Et Bulma, c'est la descendante. Enfin, son père possède une société qui fait des véhicules transformables, la Capsule Corp. Et Bulma, cette fille à papa, a un rêve, c'est récupérer les 7 boules de cristal, les 7 boules de dragon, qui permettent d'exaucer n'importe qu'elle veut. Elle a donc un capteur qui permet de savoir où sont les boules de cristal. Et dans sa quête, elle va tomber sur un petit garçon qui vit dans la forêt, comme on a très bien pu entendre au début de l'émission. Il a 9 ans, il a une queue de singe, il est d'une naïveté
confondante,
hors du commun. Et en fait, ce petit garçon possède une des boules de cristal. Donc, Bulma va essayer un petit peu de l'arnaquer et va partir en aventure avec lui. Et très vite, Sangoku, ce petit garçon, va prendre le devant de la scène pour des aventures qui vont se dérouler pendant des années et des années.
Mais non. Pour moi qui ne connais pas du tout Dragon Ball, c'est quoi la différence avec Dragon Ball Z ?
Ah ouais.
Alors, il n'y a pas de... Stricto sensu, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le manga s'appelle Dragon Ball du début jusqu'à la fin. Okay. Mais il y a un moment, il y a vraiment un tournant, à savoir que Sangoku, qu'on a connu enfant pendant toute la première moitié, va devenir adulte. Donc vraiment, le graphisme de Sangoku change. C'était un petit garçon et il devient très grand, adulte, et il va faire des combats plus sérieux. Et donc, dans le dessin animé, afin de bien montrer ce hiatus, cette bascule, on passe Dragon Ball à Dragon Ball Z. Vraiment, le dernier épisode de Dragon Ball, on découvre Sangoku qui est devenu adulte, et la semaine suivante, les petits japonais, ils ont vu un nouveau générique. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est la suite, en fait.
C'est vraiment la suite.
C'est une saison.
C'est comme des saisons, maintenant. Il y a d'autres Dragon Ball, ensuite, après.
Il y a Dragon Ball GT, il y a Dragon Ball Super, il y a Dragon Ball Daima qui vient de commencer au Japon pour fêter les 40 ans de la licence, qui est disponible en streaming sur beaucoup de plateformes légales.
Et il y a eu combien d'épisodes du premier, première partie Dragon Ball tout court?
Alors, Dragon Ball en tout, c'est 444 épisodes. C'est facile, hein, 3x4. Il y a 153 épisodes pour Dragon Ball et 291 pour Dragon Ball Z.
Alors nous, en 84, évidemment, on était trop jeunes pour clubber. En revanche, en régie, il y en a un qui est très ému, c'est notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui passait ses nuits au Why Not de Ponto Combo à, je cite, lever de la pépé sur Cool and the Gang, fresh sur Inter. We'll be right back.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Zoom Zoom Back, direction aujourd'hui 1984, l'arrivée de Dragon Ball au Japon, succès planétaire et des milliers de gamins qui rêvent de devenir Sangoku. Parmi eux, notre invité, moi aussi, notre invité Mathieu Pinon, qui bosse chez Otaku Manga. Mathieu, je disais succès planétaire, mais il a été planétaire, mais est-ce que ça a pris tout de suite ?
Alors, ça s'est passé par plusieurs étapes et tout commence comme toujours au Japon. Pour ça, il faut bien comprendre le parcours de Akira Toriyama, qui est l'auteur de Dragon Ball. Il a commencé en 1980 avec un manga d'humour qui s'appelle Dr. Slump. Et ce manga a cartonné. Et au bout d'un moment, il commençait à en avoir marre. Donc, il voulait faire une autre série. Et il a regardé notamment les films de Jackie Chan, qui l'ont très inspiré pour tout l'aspect kung-fu qu'on va retrouver dans Dragon Ball, ainsi que l'aspect comédie. Il s'est inspiré d'un conte traditionnel chinois qui s'appelle La pérégrination vers l'Occident, que tout le monde connaît en Asie. Et en 84, il l'a lancé sans trop penser que ça prendrait. Mais comme Dr. Slump avait été un véritable triomphe auprès des enfants...
Il était déjà connu.
C'est un cas d'école au sens où il a commencé 18 mois après avoir commencé. Il était une véritable star au Japon grâce à Dr. Slump. Et tout le monde a adoré l'atmosphère de Dragon Ball. Il faut bien comprendre que un manga, nous on connaît les mangas format poche qu'on achète en France. Mm-hmm. Au Japon, ça sort dans une espèce d'annuaire. C'est l'équivalent de Spirou, c'est un hebdomadaire, mais c'est vraiment, ça fait 300 pages, c'est un bottin, très mal imprimé, qualité de papier immonde. Mm-hmm. D'ailleurs, ces magazines génèrent plus de papier que l'industrie du papier toilette au Japon. Ça coûte une bouchée de pain, ça coûte à peu près 2 euros aujourd'hui. Et quand les séries cartonnent dans les magazines, elles vont finir par sortir en recueil qu'on va pouvoir acheter en librairie dans un format un peu plus petit, mais avec un papier de bonne qualité et une impression décente. Quand le Shonen Jump a commencé Dragon Ball en 84, il avait un tirage de 4 millions d'exemplaires hebdomadaires, donc vous imaginez 4 millions d'annuaires toutes les semaines. Au pinacle de Dragon Ball, début 95, on est à 6,5 millions d'exemplaires. Donc Dragon Ball a fait partie d'un trio de séries avec Yu Yu Hakusho et Slam Dunk qui ont vraiment porté ce magazine et qu'il a atteint des tirages hors du commun que tout le monde peut envier aujourd'hui.
Et quand ça arrive en France en 88, c'est accueilli comment ?
Alors, quand ça arrive en France au Club Dorothée, au début ça passe pas trop mal. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec une fausse polémique qui va parler de la violence des dessins animés, parce que dans les Chevaliers du Zodiac, il y a de la bagarre, il y a Dragon Ball, et il y avait un troisième titre qui était également diffusé à l'antenne du Club Dorothée, qui était Ken le Survivant.
Ken le Survivant, c'était vraiment très violent.
On rigole plus, c'est très Mad Max dans l'esprit. Il y a des têtes.
Mais il y a du sang, etc. Dans Dragon Ball, je parle.
Il y a du sang dans Dragon Ball. Au début, c'est majoritairement les hémorragies nasales de Tortue Géniale.
De Tortue Géniale, parce que c'est un vieux pervers excité qui saigne du nez à chaque fois qu'il voit une jolie fille.
C'est un trope japonais pour représenter l'excitation masculine. Mm-hmm. On fait saigner du nez le personnage masculin. Et Tortue Géniale saigne beaucoup du nez. Et puis, au fur et à mesure, les combats vont devenir vraiment plus costauds et on va se retrouver avec des personnes avec des bras coupés, des bras qui passent au travers du torse.
Si je peux me permettre, monsieur, ça reste quand même très loin de l'univers de Ken le Survivant. Oui. Parce que Ken le Survivant, il y a une violence qui est... Mais... C'est macabre, c'est vraiment, c'est gore. Tandis que dans Dragon Ball Z, il y a parfois des bras coupés, mais au terme d'un combat qui a duré très longtemps, très violent, c'est...
Mais c'est littéralement noyer le bébé avec l'eau du bain.
Mais en 88, ça choque la France, du coup.
Ah, ça finit par choquer au bout de quelques années.
Mais quelle position elle prend, Dorothée ? Elle assume, elle dit non, on y va, moi j'y crois.
Alors, Dorothée, elle assume, elle y croit, elle a totalement conscience du contenu. TF1 va faire appel à des psychologues pour regarder en amont les épisodes de dessins animés, savoir éventuellement quand censurer. Ça devient du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui vont être censurés. Puis le lendemain, quand on va regarder l'épisode suivant et qu'il y aura le récap, lui, n'est pas censuré. Donc, voilà, on marche un peu sur la tête parce que c'est fait vraiment à la va-vite. Pour ce qui est de la violence, c'est un débat sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Mais moi, je pense que Dragon Ball, la violence est totalement saine.
Oui, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais été choqué par la violence de Dragon Ball. Je l'ai été dans d'autres animés. Pourquoi bosser quand on peut faire bosser les autres ? C'est après avoir eu cette illumination, en me regardant donner des ordres à Gérard Lanneau, mon auteur, que Quentin a eu l'idée du complètement aux archives. Une rétrospective qu'il présenterait, mais qui lui aurait été prémâchée gratuitement par les employés de l'INA. C'est vraiment pas con, votre truc, hein, Quentin ?
Le 17 octobre 1984, sur Antenne 2, le journal de 20h de Christine Ockrent.
L'affaire est révoltante et dans le petit village de Lépanges-sur-Vologne, dans les Vosges, l'indignation avive encore l'angoisse. Un petit garçon de 4 ans et demi a été retrouvé noyé, pieds et poings liés. La police mène une enquête d'autant plus difficile que l'assassin fait peut-être partie des 70 membres de la famille.
Le meurtre de Grégory Villemain devient à ce moment précis dans les médias l'affaire du petit Grégory. Passionnante et glauque, l'affaire fascine la France. Les médias se ruent et investissent le petit village des Vosges, Lépanges-sur-Vologne, de 1000 habitants. Tous les papiers sont bons à prendre, les membres de la famille font la une des journaux, des magazines. Ce n'est plus du journalisme, c'est du voyeurisme.
Mardi après-midi, l'enfant jouait devant la maison de ses parents.
Examen graphologique de l'écriture des suspects, exploitation des traces de chaussures et de pneus à proximité du lieu du crime.
La petite église du village accueille rarement autant de monde. Mais soudain, quand le petit cercueil est transporté jusqu'au caveau, c'est comme si tout l'absurde et l'horreur de cette mort frappaient enfin les esprits de plein fouet. Trois femmes sont tour à tour prises d'un malaise. Christine, la mère de Grégory, et les deux grands-mères de l'enfant.
40 ans plus tard, l'affaire Grégory reste toujours non résolue et 40 ans plus tard, elle fascine encore les Français. Le 3 mars 1984, au Théâtre de l'Empire, à Paris, 9e cérémonie des Césars, sur Antenne 2, Léon Zitrone présente la soirée, Pierre Richard et Marlène Jobert ouvrent l'enveloppe du meilleur acteur.
Le gagnant est Coluche pour Champantin.
Je suis très ému. Je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré, hein. Quand j'ai pas dormi, parce que j'étais à côté de Gainsbourg qui arrête pas de déconner.
Coluche, le clown récompensé par le monde du cinéma, il dénonce le fait qu'on ne récompense que le cinéma d'auteur et pas celui qui fait des entrées comme celui de Belmondo ou de ses films à lui. Et puis, un élément du décor tombe.
C'est rien du tout, c'est la télé, ça se casse la gueule. Faites attention au ministre, c'est ce qu'il y a de plus important ici. Le ministre de la Culture, donc un truc pas compliqué non plus, enfin... à entretenir, et la ministre du temps perdu à un fric fou.
Et finalement, la politique n'était jamais loin, même 3 ans après sa candidature avortée à l'élection présidentielle. Justement, en parlant de Coluche, 84 est une année importante pour une chaîne qui voit le jour. Canal+, émet pour la première fois le 4 novembre. Coluche aura d'ailleurs une émission de façon éphémère. Pierre Lescure, André Rousselet, sous le premier mandat de Mitterrand, créent ce qui va aussi représenter cette époque, les belles années Canal. En 84, une asso voit le jour.
Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme et qui a pour parrain des gens comme Costa Gavras, Michel Hidalgo, Françoise Gaspard ou bien Bernard Stasi. Son but, lutter contre le racisme en dehors des circuits classiques, s'adresser aux jeunes et utiliser un langage direct.
1984, c'est aussi du sport. Les JO se déroulent à Los Angeles, 4 ans après ceux de Moscou, boycottés par les Américains. C'est retour à l'envoyeur, l'URSS boycotte et Carl Lewis triomphe.
Et c'est fait, 9,99, les 10 secondes sont battues. Et la joie immense de Carl Lewis. Carl Lewis fait le tour du stade.
4 titres olympiques pour le roi Carl. Le 17 juillet 1984, ça s'agite du côté de l'Élysée.
Bonsoir, c'est à 20h20 ce soir que monsieur Jean-Louis Bianco, secrétaire général de l'Élysée, annonce la démission du gouvernement Mauroy et la désignation de monsieur Laurent Fabius, ancien ministre de l'Industrie, comme nouveau chef du gouvernement.
Le président de la République vient de me faire l'honneur de me désigner comme premier ministre. Et la volonté que j'ai de moderniser le pays et de rassembler les Français. Et maintenant, je vais retourner travailler. Merci.
Au boulot, et ça ne tarde pas, 5 jours plus tard, une de ses premières sorties sera sur les Champs-Élysées aux côtés du maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, pour accueillir le vainqueur du Tour de France, et c'est un Français.
Ainsi, à moins de 24 ans et pour la seconde année consécutive, comme on vous l'a dit, Laurent Fignon remporte le Tour. Sur les Champs-Élysées, Fignon n'a eu aucun mal à conserver ce maillot jaune.
Pour terminer, le 1er avril 1984, pas de blague, mais une mort tragique, celle de Marvin Gaye, tué de 2 coups de fusil par son propre père, suite à une énième et dernière violente dispute, l'occasion de rendre hommage au prince de la soul avec une de mes chansons préférées, qui me semble d'ailleurs avoir en commun avec vous, Mathieu Noël.
Wow. Oh.
pourquoi vous avez ce point commun avec moi. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'écoute Marvin Gaye? Vous seriez tombé sur une de mes playlists un
peut-être.
Peu Sexy Night ou...
Peut-être.
Ouais. Ouais,
ouais.
Cozy Christmas. Oui, c'est possible, c'est possible,
Cozy
c'est possible.
Christmas.
Je ne démens pas en
playlist
tout cas.
Playlist gênante.
Je ne démens pas. Playlist gênante. Merci Quentin pour ce complètement aux archives. Mathieu Pinon, cette année 84. Alors bon, on parle évidemment de Dragon Ball aujourd'hui, mais vous étiez petit. Est-ce que vous vous souvenez de choses qu'on a évoquées là dans cette rétrospective?
Ah, mais le comment ne pas oublier le triomphe de Laurent Fignon, où vraiment tout le monde était... J'étais la génération de Bernard Hinault encore, j'étais un peu plus jeune, et de voir qu'un autre Français était capable de gagner le Tour de France, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Deuxième fois d'affilée, en plus.
Oui, c'était vraiment... ça. Dans ma campagne angevine, c'est quelque chose qui a marqué les esprits.
Oui, mais puis c'est pas revenu, c'est pas
ah bah non, depuis justement...
On attend toujours. Très bien. Mathieu Pinon, journaliste spécialisé dans la pop culture japonaise et les mangas, rédacteur en chef du magazine Otaku Manga, est avec nous pour parler du phénomène Dragon Ball qui est né en 1984. Dès son arrivée en France 4 ans plus tard, ça a marché. Est-ce qu'aujourd'hui, Dragon Ball est toujours une référence, ou ceux qui le lisent ou ceux qui le regardent plutôt avec une nostalgie particulière?
Les deux, mon capitaine. Ça va dépendre si ceux qui le regardent ont des enfants ou pas. Brigitte Lecordier, que je salue et embrasse amicalement, qui est la voix française de Sangoku et de Sangohan, explique que quand elle fait des séances de dédicaces dans des festivals, elle peut voir parfois trois générations venir, le grand-père, le père et le petit-fils, parce que chacun a connu Dragon Ball à telle ou telle période de sa vie, et le petit-fils découvre avec eux et partage exactement à 8-10 ans les mêmes émotions qu'ils ont connues quand eux-mêmes avaient 8 ou 10 ans.
Mais est-ce que le fait que les petits garçons grandissent avec les personnages, je sais pas, comme certains grandissent avec les personnages d'Harry Potter, ça compte? C'est quelque chose qui fait aussi le succès de la franchise?
Alors vraiment, avec Harry Potter, vous mettez le droit sur quelque chose, puisque quand on dit que Sangoku va devenir adulte, non seulement Sangoku va devenir adulte, mais Sangoku va devenir papa.
Papa.
Et ses enfants vont à leur tour avoir des enfants. Et donc il y a exactement comme dans Harry Potter, où à toute fin on sait qu'il va avoir un fils, et ben il y a cette filiation qui va arriver et qui fait que justement on peut se retrouver entre grand-père, père et fils à avoir chacun tel personnage qu'on va apprécier. Et d'ailleurs vraiment le tout début de Dragon Ball Z, on va avoir la relation avec le fils de Sangoku, qui est un petit peu abandonné, qui est confié en nourrice à Satan Petit Cœur, qui est pas forcément la personne la plus pédagogue au monde, et qui réclame son père à chaque épisode.
Est-ce qu'on sait, parce que quand on y pense, Dragon Ball Z, il y a quand même une grande différence entre ce côté, au début quand il est tout petit, c'est une quête, la quête des boules de cristal, quelque chose d'aventure, un peu en mode comédie aussi, et puis après ça devient quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus sur les combats. Est-ce qu'on sait ça, si c'est une volonté d'Akira Toriyama ou de ceux qui travaillent avec lui, ou de la production, je sais pas, qui l'ont orienté plutôt dans un sens ou dans
Alors
un
c'est autre. C'est une volonté propre à Akira Toriyama. Au Japon, les mangaka travaillent avec ce qu'on appelle un tanto, donc on appelle ça un responsable éditorial. Donc c'est la charnière entre l'auteur et la maison d'édition. Okay. Mangaka, c'est vraiment un métier solitaire. On est entre ces quatre murs, on dessine, faut tomber 18 pages par semaine, c'est vraiment un travail, c'est pour ça que c'est en noir et blanc, c'est vraiment un travail colossal. Et il y a cette personne-là qui fait la charnière et qui est capable de dire, alors, tel nouveau personnage que t'as introduit, il plaît beaucoup auprès du public, donc on va faire en sorte de le mettre un peu plus en avant. Cet arc scénaristique, ça devient un peu pénible, il va falloir penser à le couper. Donc il y a
un échange.
Voilà. Et le tanto de Akira Toriyama s'appelait Kazuhiko Torishima. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement célèbre au Japon qui a marqué l'histoire du manga. Et lui, il était contre l'idée de changer Sangoku pour le faire grandir. Il disait, l'enfant ne va plus se reconnaître. Ah. Et Toriyama a insisté à tel point que Torishima a quitté son poste pour laisser un autre tanto s'occuper de Toriyama. Donc c'est vraiment une volonté propre à l'auteur.
Manon Mariani qui parle football, c'est l'oxymore qu'on n'attendait pas et qui pourtant va se produire dans quelques instants, puisque 1984 est un grand millésime pour les Bleus, juste après Hervé, moins une sur France Inter.
Le ventilo tourne en rond, pendant que je brasse de l'air, le même qu'hier, putain. Je ferme les yeux pour voir la mer. Je ferme les yeux pour voir la mer. Défile sur le bandeau. L'info paramilitaire, est-ce qu'ils auront ma peau? Je commence à croire que j'ai peur. Je commence à croire que j'espère.
voyent comme des échos. Des destins paratonnerres en manque d'avis pour l'ego. Est-ce qu'on notera qui m'enterre? Est-ce qu'on notera qui m'enterre? À quoi bon chercher les mots? Si les sirènes chantent l'histoire, à chercher qui a bon dos? Si l'horizon pue l'horreur, ça retournera son pullover.
Sur France Inter.
1984, j'avais 2 ans, ce qui fait que je suis plus vieux que Son Goku, le personnage culte de Dragon Ball. On continue d'en parler avec notre invité Mathieu Pinon, mais Manon, en 1984, c'était aussi une grande année pour le foot français, et même une première fois.
Début juillet 1984, il fait chaud à Paris, surtout du côté du Parc des Princes, où des milliers de supporters sont venus transpirer pour acclamer leur équipe de football national.
Voilà, monsieur Christophe. C'est parti avec Platini, Battiston.
Coup de sifflet, un match d'anthologie démarre entre la France et l'Espagne, une finale de championnat d'Europe qui va rester dans les annales car pour la première fois, l'équipe de France de football va remporter un titre international.
Victoire de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe, première victoire française dans une compétition de cette envergure.
La France s'impose 2-0, premier but, un coup franc de Michel Platini, deuxième but alors que tout le monde retient son souffle, Bruno Bellone marque à la 92e minute. Euphorie collective, les Bleus s'enlacent sur le terrain, le public est en feu. Dans la tribune officielle, le président Mitterrand est tout sourire. Et pour cause, c'est donc le premier titre majeur dans l'histoire du football français, gagné en plus à domicile. Une victoire que De Michel voulait absolument. D'un côté, l'entraîneur Michel Hidalgo, car c'est son 75e et dernier match à la tête de l'équipe de France après 8 ans. Et de l'autre, celui qui était considéré comme le meilleur joueur du monde en 1984, Michel Platini. À ce moment-là, il brille à la Juventus de Turin et vient de gagner son premier ballon d'or. C'est la star de l'équipe de France, le capitaine sur qui tout le monde compte. Et il n'a pas déçu, c'est lui qui soulève la coupe fièrement après la victoire. Car pour lui, c'est aussi une victoire personnelle. Pendant cet Euro, Michel Platini marque 9 buts en seulement 5 matchs, un record qui n'a jamais été égalé depuis. Il est évidemment sacré meilleur joueur de l'Euro 1984 et remporte quelques mois plus tard son deuxième ballon d'or. Il raconte au micro de Jacques Vendroux que c'était la première compétition dans laquelle il se sentait aussi bien physiquement.
De toutes mes compétitions finales que j'ai fait, c'est la première fois que je prends pas des cachets, que je prends pas des anti-inflammatoires. Donc j'étais bien quoi.
Jean Tigana, Alain Giresse ou encore Louis Fernandez ont aussi participé à ce triomphe de l'équipe de France en 1984. Mais après le match, pas de parade sur les Champs-Élysées, pas de selfie avec le président de la République, pas de bande foule avec les fans. Les joueurs sont tout simplement rentrés à la Fédé puis sont partis dîner avec leur famille. Ils ont même oublié la coupe dans les vestiaires. Le triomphe sobre. En France, c'est tout de même l'euphorie dans les rues. Le soir même, les supporters sont sortis. À Paris, on l'écoute. Une ambiance bon enfant qui fait chaud au cœur. Le lendemain, on ne parle que de ça. L'équipe titre, ils l'ont fait. Le Parisien, on attendait ça depuis 80 ans. Champion et Libération, la victoire en shootant. Car plus qu'une simple coupe, 7 euros a marqué un tournant dans l'histoire du football français grâce à elle. L'investissement dans le sport s'est accentué. La Fédération française de foot met en place des programmes de développement, notamment l'ouverture du célèbre centre de Clairefontaine. L'été suivant, l'équipe de France remporte une médaille olympique et elle finira 3e du Mondial 86 au Mexique. Mais le triomphe va quand même être de courte durée car en 1987, l'équipe de France perd son plus grand joueur.
Je suis sûr que j'arrête parce que ça fait quand même un an que j'ai pris cette décision. Je sais que je n'aurais pu me motiver. J'aurais pu jouer comme ça à la baballe pendant encore quelques années, mais je crois que ça aurait servi à rien.
Le départ de Michel Platini marque le début de la dégringolade pour l'équipe de France. Elle ne gagnera plus rien jusqu'en 1998.
Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0.
Les joueurs de 98 le disent, la première victoire de l'équipe de France en 84 a eu une grande influence sur eux, car plus qu'une simple coupe, c'est un héritage que l'équipe de Platini a légué aux générations suivantes. Nos deux Coupes du Monde le montrent bien.
Ah, merci oui. Manon, merci, voilà. C'est toujours bon de se remémorer ces moments, surtout en présence de celui qui en régie attend toujours que son équipe nationale remporte quelque chose, n'importe quoi. Charles Nouveau, bah, il est déjà là, notre humoriste suisse, bah, c'est toujours bon ces moments-là. Zoom Zoom Back en 1984 aujourd'hui, l'arrivée de Dragon Ball. Notre fil rouge cet après-midi avec le rédacteur en chef du magazine Otaku Manga, Mathieu Pinon. Mathieu, il y a un truc assez moderne avec le recul dans Dragon Ball, c'est que Son Goku, il sait pas faire la différence entre les filles et les garçons. C'est étonnant d'avoir introduit cette notion au début de l'histoire, ça vient d'où ?
Ah bah ça vient tout simplement du fait que Akira Toriyama auparavant avec Dr. Slump avait découvert, avait développé un univers rempli d'humour, et cet humour il l'a reproduit dans Dragon Ball, et on va pas dire que c'était l'homme avec l'humour le plus fin du monde.
Non, c'était...
Voilà, donc il aime beaucoup l'humour sous la ceinture. Ouais. Dans Dr. Slump, Harale aimait beaucoup jouer avec des cacas. Dans Dragon Ball, eh ben, Son Goku aime beaucoup jouer avec les culottes, afin de savoir si une personne en face de lui est un garçon ou une fille. Le seul moyen qu'il a, c'est d'aller tâter ses sous-vêtements.
De faire tap-tap.
De faire paf-paf.
Ce qui est interdit.
C'est bien ça, c'est sûr. Les mangas, ça fonctionne pas très bien aux États-Unis. Pourtant, Hollywood a quand même essayé d'adapter Dragon Ball au cinéma. C'était en 2009, avec le film Dragon Ball Evolution.
L'enfer.
Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Il faut en penser qu'ils n'ont pas compris le principe.
Ah oui.
Voilà, tout simplement. Déjà, le fait de faire de Goku un lycéen américain, mais pourquoi? Comment même Chow Yun-fat qui vient toucher son chèque n'est pas sauvé dans ce film. C'est vraiment donc une incompréhension totale du média, et cette incompréhension on l'a encore reconnu il y a pas longtemps, alors que Sony avait participé avec le film live des Chevaliers du Zodiac qui n'est vraiment pas sauvé. Il y a Sean Bean qui meurt encore une fois, mais ça c'est pas grandiose.
C'est surtout un des films les moins bien notés de toute l'histoire. Ah ouais. IMDb, il est dans le top 20 des pires films, même devant Very Bad Buzz, tu vois. Enfin c'est assez dingue.
Ça va vraiment très loin. Manon.
On parlait des femmes, mais c'est quoi la place des personnages féminins dans Dragon Ball?
Alors c'est très marrant parce que il y a beaucoup de débats sur internet par rapport à ça. En fait, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que la majorité des personnages masculins sont là pour la bagarre. Voilà, ils sont vraiment là pour la bagarre, et donc les personnages féminins ont tout un champ d'expression qui est beaucoup plus ample. Et un personnage comme Bulma est très intéressant parce que Vegeta qui va être d'abord un grand antagoniste, puis qui va se rentrer dans l'équipe du bien, et Vegeta qui pourrait détruire des planètes en claquant des doigts, mais Bulma le mène à la baguette, elle le tient par le bout du nez.
Elle
donc en fait, on pourrait penser que les femmes vont être des faire-valoir, mais les femmes ont vraiment beaucoup de classe, et un des personnages féminins les plus emblématiques de Dragon Ball Z, si on se réfère à l'animé, c'est C18, qui est un androïde féminin, et C18, elle a une sacrée paire de moteurs bioniques.
Ouais, C18, c'était quelque chose. Hein. Voilà. On en avait peur. Effectivement, est-ce que vous avez vu, je vais vous poser une question précise, parce qu'on parlait de la version film, qui est un échec de Dragon Ball, est-ce qu'on peut réussir une adaptation de manga en film traditionnel? Est-ce que vous avez vu Cat Size sur TF1?
Alors, j'ai vu Cat Size sur TF1, et je suis, ma foi, assez satisfait du résultat, car les auteurs ont su prendre suffisamment de liberté pour ne pas essayer de recopier bêtement un dessin animé, ce qui ne pourrait pas fonctionner. Sans trahir l'ADN. Ce qui est en plus très intéressant, c'est qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire une origin story, donc on est à un moment où les Cat Size ne sont pas encore des Cat Size. Elles sont pas aptes à faire des roulés-boulés sur les toits et sur les poutres, donc elles sont encore un petit peu hasardeuses, elles sont pas des championnes de gymnastique. Après, il y a quelques défauts inhérents à toute fiction TF1, comme un jeu d'acteur, ma foi, tout juste passable. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne idée. Mais surtout, Cat Size se passe dans un univers réaliste. Et à partir de là, c'est beaucoup c'est plus facile à transposer en live action.
Aujourd'hui, on parle de Dragon Ball. Moi, je me suis arrêté à Dragon Ball Z. Ensuite, ça a continué. Vous qui avez continué, c'est votre métier. Qu'est-ce que ça vaut, tous les trucs légendaires qu'il y a eu par la suite, les Naruto, les One Piece aujourd'hui, c'est du même niveau, c'est mieux, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des héritiers directs. D'ailleurs, pour preuve, si Naruto, qui est un ninja, a une tenue orange, qui est quand même la couleur la moins pratique pour se camoufler au monde, c'est en référence directe à la tenue que porte Goku dans les premiers épisodes de Dragon Ball. Et l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, le clame à qui veut l'entendre, qui c'est un héritier direct de Toriyama. Ils ont même dessiné ensemble, ils se sont amusés à ce que Oda dessine Son Goku et que Toriyama dessine Luffy. Donc on a vraiment cette filiation. En revanche, on arrive en ce moment dans une phase très critique pour le Japon, parce que cette recette dont je parlais auparavant avec les trois valeurs courage, amitié, victoire, ne fait plus recette justement, car le Japon connaît une crise démographique hors du commun, comme on le sait. Il y a de moins en moins d'enfants et donc il y a de moins en moins de jeunes garçons auxquels s'adresser. Forcément. Et donc cette recette qui marchait très très bien sur les petits garçons.
Pourquoi vous dites jeunes garçons ? Il y a les jeunes filles.
Ah oui, il y a les
jeunes
filles aussi. Oui. Là, vous avez ce qu'on appelle un magazine shonen, cible éditorial garçon.
Ah oui.
Et vous avez le magazine shoujo, cible éditorial filles. Deux exemples de titres shoujo que tout le monde connaît en France, Cardcaptor Sakura et Sailor Moon.
Sailor Moon, qui rappelle des souvenirs à Manon, évidemment. En 1984, Thomas Croisière affirme qu'Albator 84 est bien inférieur à Albator 78. La reine Sylvidra appréciera, je ne sais pas de quoi il parle. Et c'est donc à cet esprit critique hors du commun que j'ai demandé de nous raconter ce qu'était le cinéma de 1984.
En 1984, le cinéma est mort, puisque disparaît François Truffaut, l'auteur de la Pantalogie d'Antoine Doinel, le réalisateur du 10 fois césarisé Dernier Métro et le producteur de l'oscarisé Nuit américaine, dans laquelle il disait
« Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. »
Lui ne reçut ni César ni Oscar. Et pourtant, en 1984, Sergio Leone signe le plus grand film de toute l'histoire du cinéma. Il était une fois en Amérique, dernier volet de sa trilogie dite du temps, aux côtés d'Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois la Révolution. Leone dit à propos de son film Testament qu'il aurait aussi pu le nommer Il était une fois un certain type de cinéma. Car en 1984, l'industrie du cinéma change en profondeur. En France, c'est la création de Canal+. Cinéma, cinéma, qui modifiera la façon dont on finance les films français. Avec les obligations d'investissement des chaînes de télévision, ils seront désormais pensés pour les petits écrans de télévision et plus pour les grands écrans de cinéma. Tandis qu'aux États-Unis, le grand spectacle et le pop-corn sont rois. Nya, 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 nya. Ce sont les Gremlins de Joe Dante, qui, s'il s'était appelé Al, aurait été bien cuit. Mais c'est aussi Eddie Murphy en Flic de Beverly Hills. C'est son fameux thème d'Axel F, repris 20 ans plus tard par Crazy Frog. Ring ding 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 ring ding 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 ring ding 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 ring ding 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 ba ba. 1984, c'est Indiana Jones, c'est le temple maudit, réalisé et produit par Steven Spielberg et George Lucas, le binôme qui de la fin des années 70 jusqu'au début du 21e siècle imprima sa marque sur toute l'industrie du divertissement mondial, sans oublier à la poursuite du diamant vert de leur copain Bob Zemeckis et sa bande originale signée Alan Silvestri, aussi efficace au cinéma que dans un ascenseur.
C'est vrai.
Voire dans un téléfilm Erotosoft d'M6, vous savez, ceux avec des baignoires et des éponges naturelles. Et puisqu'on parle musique, 1984, c'est aussi le triomphe au box-office, comme au top 50 d'un film d'Ivan Reitman, mettant en scène Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver et Rick Moranis. Et si je vous dis « Who you gonna call ?», qu'est-ce que vous allez me répondre ?
Ghostbusters !
Ghostbusters ! It's a something strange in your neighborhood. Who you gonna call ?
Ghostbusters.
Et parmi tous ces films pop-corn, on en trouve un qui, contre toute attente, puisqu'il mettait en scène l'ex-bodybuilder Arnold Schwarzenegger, révèle 40 ans plus tard toute sa portée visionnaire, voire philosophique, dans son traitement du rapport de l'homme à la machine et à la fin du monde. Terminator, ou en anglais, The Terminator.
I'll be back.
Et je vous rappelle que d'après le prophète James Cameron, c'est en 2029, soit dans 5 ans, que le T-800 sera envoyé dans le passé pour éradiquer l'humanité en tuant
Sarah Connor.
Tiens à côté.
Sarah Connor.
Oui.
Le cinéma est mort.
Vive le cinéma !
De 1984.
Et merci Thomas Croisière. Et 2029, c'est vrai que ça approche, il va falloir faire gaffe. Et bonjour, bonjour, j'allais dire Thomas Nouveau. Comme vous êtes une sorte de binôme.
Oui, absolument. Une sorte.
Et que l'un pourrait être le fils de l'autre, finalement, sans faire insulte à Thomas.
On ne dit pas qui. Oui,
vous l'auriez eu très jeune.
Voilà. Je l'aurais eu très jeune, puis surtout si on fusionne, on est plus fort que Gotrunk.
Fusion, c'est très beau mot.
Si je peux me permettre de visiter Albator 84, mais sachez que la musique de Albator 84 était signée de Shunsuke Kikuchi, qui a également signé les musiques de Dragon Ball, ainsi que de Goldorak. Comme quoi, tout se recoupe.
Tout est dans tout.
Comme quoi, quand on invite un spécialiste, on a quand même des informations intéressantes.
Et en parlant de musique, moi je suis très admiratif du travail de Thomas Croiser, parce que quand il fait ring ding ding ding, ça passe en droit d'auteur tout ça.
C'est très fort. Il est très fort. Alors justement, bonjour Charles Nouveau.
Bonjour.
Vous aussi, vous allez nous parler évidemment de Dragon Ball, comme tout le monde, les dessins animés, vous y étiez souvent exposé durant votre jeunesse.
Vous voulez dire, est-ce que mes parents ont trouvé des stratagèmes pour que je leur foute régulièrement la paix pendant plusieurs heures?
Très bien. Alors on se réjouit d'entendre parler de vos souvenirs de Dragon Ball, de beaux souvenirs visiblement. La chronique de Charles Nouveau, c'est juste après qui? Les Rita Mitsuko, Marcia Baila sur Inter.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Avant d'apprendre à lire et d'avoir accès aux pages des mangas papier, les petits yeux globuleux de Charles Nouveau ont évidemment été captivés par les animés, leurs versions télévisuelles, parmi lesquelles Dragon Ball était évidemment incontournable.
Pas que pour moi, Mathieu. D'ailleurs, vous compléterez si je vous dis Dragon Ball Z, 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 Z. Z. Ah, évidemment que vous l'aviez, c'est quand même les initiales de votre émission. Dragon Ball Z, c'est la suite de Dragon Ball, mais en France, je crois qu'on a commencé par ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'était ça le truc le plus populaire. C'est peut-être George Lucas qui a gérer l'ordre de diffusion. Cyril Lacarrière m'a confié tout à l'heure n'avoir jamais regardé, lui. Au début, j'ai cru que c'était un stratagème pour nous faire croire qu'il était né en 1992, mais non, en fait, c'est juste que c'était un enfant un peu à part qui, pour se distraire, préférait capturer et torturer des petits mammifères volatiles et amphibiens dans sa chambre. Pour certains, il m'a dit d'ailleurs, en lisant mon papier, qu'il a rien compris. Il m'a dit, non, mais c'est pas grave, ça fera marrer les puristes. Et j'ai dit, non, les puristes, c'est ceux qui vont le plus me chier dessus, a priori.
Oui.
Je pense, pour certains, ça peut paraître fou, mais plein de gens ne connaissent pas le grand Eva vaillant Sangoku. Ce type qui s'habille comme dans Orange is the New Black avec la coupe de cheveux du chanteur de Tokyo Hotel. Pourtant, c'est un succès planétaire. Hein, c'est vraiment international. La preuve, pendant les vacances d'été et de Noël, je devais regarder Dragon Ball en catalan. Hem de trobar les boles de drac, Son Gohan. Et ouais, c'est autre chose, c'est une autre ambiance. Pour ceux qui ne savent pas, Son Goku, c'est un extraterrestre. On dirait pas comme ça en premier coup d'œil. Hein. C'est un de ceux qu'on soupçonne le moins, avec peut-être Michel Drucker. Et comme Michel Drucker, Son Goku ne meurt jamais. Ou plutôt, il meurt, mais il revient ensuite à la vie, notamment grâce au pouvoir des 7 boules de cristal, avant de rêver de posséder les 151 Pokémon du Pokédex original. Le fantasme ultime, c'était de trouver les 7 boules de cristal, pas celles de Tintin, mais du dragon Shenron, qui peut alors exaucer un vœu. C'est un peu comme l'Euromillion, sauf que si t'as tous les numéros, au lieu de recevoir le PIB d'un petit pays, tu peux ressusciter un ami de ton papa. Pas inintéressant, surtout parce que mourir, c'est un aléa professionnel quand à chaque saison, tu dois te battre contre des adversaires bien meilleurs que toi sur papier, à la manière du Stade Brestois. La mort n'est donc pas une fin en soi dans Dragon Ball. D'ailleurs, quand les personnages sont morts, ils s'entraînent au paradis avant de revenir sur Terre plus balèzes. Quand ils se battent pas, ils s'entraînent et inversement, oui, Dragon Ball Z se passe au Daguestan. Et avant le MMA, les enfants regardaient Dragon Ball Z. Moi, j'ai des neveux qui passent leur temps à se taper dessus. Pas parce qu'ils s'engueulent, mais parce que rien ne les amuse plus au monde. Et depuis que je leur ai montré Dragon Ball Z, paradoxalement, le nombre d'hématomes a diminué. Déjà parce que maintenant, ils alternent les uppercuts avec des boules de feu imaginaires. Oui. Mais aussi parce qu'avant chaque bagarre, désormais, ils se toisent du haut de montagnes séparées d'un kilomètre et demi pendant au moins 10 minutes. On se demande parfois si les petits sont exposés à trop de violence aujourd'hui, alors qu'on est toute une génération à avoir vu Freezer faire littéralement exploser Krillin. Horrible ! Horrible ! Et Krillin, t'as trop d'empathie pour lui à la base, parce que presque tous ses amis ont des cheveux et pas lui. Hein, c'est dur, les cheveux c'est un vrai enjeu hein, dans Dragon Ball. En voyant que son ami meurt, Son Goku est foudrage et se transforme pour atteindre un nouveau degré de puissance, le Super Saiyan. Ses cheveux sont maintenant blonds, ses yeux sont bleus. Mon collègue Yacine Bellous remarque qu'on dirait un peu la rhétorique du Troisième Reich. L'occasion de se rappeler de quel côté étaient les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont la fin des événements les a évidemment traumatisés. J'en veux pour preuve que la plupart des personnages de cette série se battent à coups d'explosions nucléaires, hein, plus ou moins. Il faut au moins ça pour se débarrasser de tous les super méchants iconiques qui m'ont premier degré vraiment fait peur quand j'étais enfant. Je pense à Cell, un cafard qui fait plus de mises à jour que votre iPhone. Et ce qui risque de se passer le jour où Bégon Vert ne fonctionnera plus. Je pense aux différentes formes de boue, sortes de malabar conscientisées, prévenant des dangers de la boulimie et du diabète. Freezer, dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu une DA de sextoy et sur lequel je ne veux pas trop m'attarder parce que je le soupçonne d'être un outil de propagande anti-queer. Babidi, qui répond à la question, et si votre scrotum était méchant et avait des pouvoirs magiques? C18, dont vous parliez tout à l'heure, Mathieu, hein, une androïde qui, elle, répond à la question, et si ChatGPT était en fait super bonne? Bonne nouvelle, elle finira du côté des gentils. Et elle a d'ailleurs épousé le chauve. Autre chauve, Tortue Géniale, qui n'est pas un méchant dans le dessin animé, mais un vieux sage qui fait office de mentor, tout en étant par ailleurs un obsédé sexuel. Je l'ai mis là, parce que rétrospectivement, dans ce dessin animé, Tortue Géniale, en fait, c'est l'abbé Pierre. Et enfin, bien sûr, l'immensément charismatique Vegeta, lui aussi devenu gentil par la suite, mais qui restera peut-être le plus grand rival de Son Goku. Mathieu Noël me confie tout à l'heure, et je soupçonne Thomas Croisière, c'est pareil pour lui, que c'était lui, son chouchou. Le personnage préféré de votre animateur préféré est un aristocrate déchu. Je suis complètement mégalomane, rongé par l'aigreur qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus considéré. N'hésitez donc pas à demander autour de vous quel personnage plaît le plus. C'est un bon test pour découvrir la vraie personnalité des gens.
Ah, c'est très bien vu ça, Charles, parce que c'est vrai que je vous ai dit Vegeta tout de suite. On est tous, on répond tous Vegeta.
Ben, Vegeta, c'est le plus classe en vrai.
Mais je suis un super carré, je ne peux pas perdre.
Mathieu, c'est qui votre personnage
préféré? Pour moi, c'est, alors tout le monde l'a oublié, c'est Oolong, qui est un petit cochon qui apparaît au tout début et qui quand même réussit à sauver le monde en faisant le vœu d'avoir une petite culotte. Et ça,
c'est
pas donné à tout le monde.
Ça me revient. Merci beaucoup Charles Nouveau, merci beaucoup Mathieu Pinon de nous avoir éclairé sur la saga Dragon Ball et sa postérité. Je rappelle, votre magazine Otaku Manga, la bible de mon fils et de tous ceux qui aiment le manga. Merci à tous les amis, par ordre de performance croissant, on va dire. Thomas, Quentin, Manon, Charles, Solidarité Suisse oblige. Merci à toutes celles et ceux qui nous aident à préparer cette émission. Alexis Lacour, Florence Gimalac, Pierre Courat, Gérald Darnaud, Romain Bonifaci et Valentin Gelsomino. À la technique, c'était Enzo d'Hospital, à la réalisation Ghislain Fontana. Zoom Zoom revient lundi 16h pour zoomer sur la Femtech, quand les nouvelles technologies se mettent au service des femmes. Cyril posera une RTT. Zoom Zoom Zen.